Cours de philosophie politique par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 13 octobre 1994.
Vous avez rappelé la dernière fois l'importance dans cette question de la philosophie politique de la République de Platon. C'est quand même le premier grand travail philosophique sur la politique. Et il y a à boire et à manger, comme souvent dans Platon. Il y a des choses géniales, mais qui sont souvent un peu à côté. Comprenons que Platon, c'est le philosophe de la théoria, de la contemplation, puisque c'est le philosophe de l'âme, et que pour lui, l'âme existe avant d'être unie au corps, et donc c'est l'âme contemplative qui est auprès des dieux et qui vit de la vie des dieux avant d'être unie au corps. Et c'est parce qu'elle est unie au corps que l'aspect de la politique existe. Alors voyez, la politique, au fond, c'est ça l'intérêt. C'est un per accidens. Ça vient accidentellement. Elle ne fait pas partie de la nature humaine. Puisque pour Platon, la nature humaine, c'est l'âme. C'est pas le corps et l'âme. C'est l'âme. Et c'est l'âme contemplative qui est la finalité. Or, c'est un fait. Alors, c'est pour ça que le mythe de la caverne est si important. Oui, c'est peut-être la pointe, au point de vue philosophique, de tout son livre. Pour nous, c'est sûrement un point de vue très important. Heidegger met très en lumière, je ne sais pas si c'est très juste, le point de vue du mythe de la caverne. Le mythe de la caverne exprime parfaitement, je crois, ce que Platon conçoit pour le législateur, pour le roi. Il ne faut pas oublier qu'il a un atavisme impérial, Platon. Donc il y a toujours une réminiscence avec ses ancêtres qui ont été empereurs. Il y a quelque chose en lui qui se sent très bien. La magnanimité de Platon, c'est la grandeur de Platon. C'est toujours noble ce qu'écrit Platon. Ça. C'est souvent fou, mais ça a quelque chose de grand. Mais, oui, parce que qu'est-ce qui reste vrai de Platon? La théoria comme fin de l'homme. Et une théoria toute différente de celle de la vraie théoria. C'est une théoria imaginative. Alors le père Vestugère, dominicain, qui a connu et qui connaissait très bien Platon, a écrit sur Platon, mais au fond vraiment comme disciple de Platon. Il ne comprenait pas du tout Aristote. Et là, il est intéressant à lire, il y a des choses très intéressantes de père Vestugère sur la contemplation de Platon. Nous n'avons pas à nous spécialiser dans Platon. Nous avons à le connaître pour mieux connaître Aristote. Parce que c'est sûrement quelque chose d'important. Aristote a quand même été 20 ans auprès de Platon. Donc on ne peut pas ignorer Platon si on regarde Aristote. 20 ans. Tandis que Platon a été 8 ans avec Socrate. Alors l'influence de Socrate est très forte au début. Puis le temps a diminué parce que le génie de Platon n'est pas du tout celui de Socrate. Mais il a eu cette inflexion avec Socrate, où Socrate l'a retiré de la politique pour lui faire comprendre qu'il y avait quelque chose de plus grand. Mais après la mort de Socrate, de Platon, de Socrate, je veux dire, est entièrement respectée par les philosophes européens, à la différence d'Aristote. Platon suscite des amitiés. Je ne dis pas que Platon est l'ami du genre humain, mais il suscite des amitiés. Mais il conduit le genre humain à des fausses pistes. Il est séduit, le grand séducteur. Et surtout au niveau politique. Alors, il y a le mythe de la caverne. Il faut bien voir dans Platon le mutos et le logos. Hein. Ce que dit Heidegger, ça il a raison. Mais c'est une manière de regarder Platon qui, je crois, est vrai. De voir la part du logos et donc la découverte de la dialectique. Platon est quand même le père de la dialectique. Il y a une dialectique au niveau des formes en soi. Pour essayer de comprendre leur lien. Et puis dès qu'on est en face de quelque chose qui n'est pas immédiatement assumé par le logos, on va créer des mythes. Il y a un livre, je ne sais plus c'est qui, mais c'est facile à retrouver, qui montre tous les mythes de Platon. Et ça, c'est très intéressant. Oui. On peut aborder Platon de façon diverse. Platon, le père de la dialectique. Platon, le père du mythe. Il y avait deux manières totalement différentes de regarder Platon. Et on peut, et c'est la manière souvent qu'on prend en Sorbonne, voir que chaque dialogue exprime quelque chose de particulier et que l'unité de la philosophie de Platon n'est pas faite. Donc chaque dialogue doit être un petit peu regardé pour lui-même. Et alors il y aurait une autre façon de regarder Platon, Platon philosophe de l'âme. Et c'est sûrement la manière la plus profonde de le regarder. Platon philosophe de l'âme. Pour montrer comment l'âme est d'abord liée au logos. Et que l'âme est liée au corps d'une façon accidentelle à cause de la chute. À cause du péché, à cause de la faute. Et que c'est parce que l'âme est liée au corps que la politique doit exister. Et la politique doit exister pour fonder l'éthique. Vous voyez, vous avez donc trois zones à respecter. La théoria, la contemplation, la politique et l'éthique. Et l'éthique est en troisième niveau. L'éthique personnelle, et en réalité l'éthique est commandée par le point de vue politique. C'est pour ça que cette phrase si étonnante de Platon, la justice est écrite en grosses lettres chez ceux qui gouvernent et en petites lettres ceux qui sont gouvernés. Et ça c'est l'éthique personnelle. Vous voyez ça, alors ça dit tout. L'éthique en gros, ça veut dire la justice en soi, c'est ceux qui sont au pouvoir. Hein? Alors voyez comme c'est vrai. La justice en soi, ceux qui sont au pouvoir. Et puis ceux qui sont subordonnés, c'est la justice en petites lettres. Parce que l'éthique personnelle est un succès d'année de la politique. Alors ce qui est très curieux, c'est une thèse que j'aurais aimé faire, j'avais lancé un étudiant le faire, je crois que c'était trop difficile pour lui. sauve l'influence d'Aristote sur Platon. Mais je crois qu'on dit ça avec des a priori. Et je crois qu'Aristote a eu une influence sur Platon beaucoup plus grande qu'on peut le dire. Il ne faut pas le dire, parce qu'on ne peut pas le dire. Ça, c'est caché. C'est mis entre parenthèses. Et ceci, ce serait pour voir l'importance de l'expérience dans la connaissance. Parce que c'est un des très gros problèmes de Platon, ça. Le premier Platon, la réminiscence, source de toute connaissance, le Ménon. Le dialogue du Ménon. l'influence de Parménide. Platon se critique les formes en soi. Donc tout ce qu'on a reçu dans la réminiscence, est-ce que c'est vraiment le réel? Et alors, d'une certaine manière, réapparaît avec l'induction l'expérience. Troisième moment. Et le Parménide se termine par Platon, Socrate, élève de Parménide. Pour la grande dialectique, c'est le Parménide qu'il faut regarder pour comprendre la dialectique de Platon. Ça, c'est pas commode. Hein. Il faut avoir un désir de faire un séminaire sur le Parménide. C'est très difficile, parce que c'est la pure dialectique, elle est un très beau, ce qui montre l'intelligence de Platon. Et à partir du Parménide, on voit un Platon tout autre, plus du tout le premier Parménide, c'est plus du tout la République. Il va sortir alors de tout cela, non plus, parce que le premier Platon, c'est le chef-d'œuvre, c'est la République.
Le roi a le droit de mentir, parce qu'il sait
comment dire, pour le bien du peuple. Alors on se sert du mensonge pour le bien du peuple. Mais c'est très intéressant de voir ça, parce que alors c'est Machiavel qui est là présent. Alors, à première vue, c'est un idéal prodigieux et merveilleux que le roi soit un philosophe, mais c'est notre rêve, ça. Mais vous voyez tout de suite le danger, c'est que la connaissance spéculative et que la connaissance pratique ne distinguent plus. On passe de la contemplation à la politique. Et entre deux, il y a le mythe de la caverne. Alors, le mythe de la caverne, c'est très simple. Nous sommes dans une caverne, donc nous ne voyons que les apparences. La réalité, on ne la voit pas. Il faut être philosophe pour découvrir la réalité. Il faut être contemplatif pour découvrir la réalité. Donc, et une fois qu'on est sorti de la caverne, pour contempler les formes en soi, par amour pour son peuple, on redescend de la caverne. Mais on dit des choses que le bon peuple ne comprend pas. Il faut mentir pour qu'il comprenne. Mais avant qu'il comprenne, il peut chasser le roi de la caverne. Ou le tuer. Alors, il y a cette chose curieuse et très curieuse. Pour Heidegger, la caverne représente un axe dans la pensée de Platon, avant et après. Autrement dit, il y a deux conceptions de la vérité, ce que je ne crois pas, du reste. Mais c'est intéressant, parce que Heidegger n'est pas un imbécile. Il y a deux conceptions de la vérité. Une avant, la vérité c'est la réalité. Et après, c'est déjà une conception de la vérité qui conduit à Aristote. Et Heidegger, tout en aimant beaucoup Aristote, reconnaît qu'au point de vue de la connaissance, Aristote s'est trompé. Parce qu'il a distingué le vrai de la réalité et le vrai de l'intelligence. Donc il accepte l'abstraction. Ce que je connais n'est pas adéquat à la réalité. Ce qui est vrai. Ce que je connais n'est pas adéquat à la réalité. Donc, ce que je connais implique une vérité de la connaissance. Et cette vérité de la connaissance devrait être adéquate au réel. Pour la dialectique, il n'y a qu'une seule vérité, la vérité de la dialectique. Et le réel doit se soumettre à la dialectique. Autrement, il n'est plus réel. Mais la connaissance est mesure de la réalité. Et donc il n'y a qu'une seule vérité, la vérité de la dialectique. Mais la vérité de la dialectique, c'est la vérité de la réalité. Donc il n'y a qu'une seule vérité, la vérité de la réalité. Il n'y a pas ces deux vérités. Parce qu'il n'y a pas d'abstraction. Je crois que c'est la grande lacune de Platon, ça. De sorte que même lorsqu'il essaie de redécouvrir l'induction, c'est très difficile. N'est qu'une seule induction, l'induction de la cause exemplaire, de l'exemplar. C'est l'induction des psychologues. Ce n'est pas la véritable induction, c'est l'induction de l'artiste. Vous voyez ? C'est l'induction qui conduit à l'idéa exemplaire. Si toutes les réalités étaient des œuvres artistiques, cette induction-là serait intéressante. Mais comme toutes les réalités ne sont pas des œuvres artistiques de l'homme, cette induction ne porte pas. Donc, vous voyez, là, il y a un très très gros problème, qui est le problème de la connaissance. Ce que je vois, ces trois aspects de la source de la connaissance, c'est quand même très intéressant. Et c'est le début de la critique. Le début de la critique naît avec Platon, le Parménide. Le Parménide est le premier livre critique, où on critique les formes idéales, les formes en soi. Est-ce que les formes en soi sont la réalité ou pas ? Pour Platon, c'est la réalité. Pour Aristote, non. comme ça sont inutiles. Tout le système de Platon repose là-dessus. Oui, comme la grande statue de Nabucodonosor au pied d'argile. Grande statue énorme. C'est une construction énorme, Platon, mais merveilleuse, étonnante de beauté. Mais elle se fond. Sur un rêve, des formes sans sous. Et Aristote, avec son intelligence critique, verra que le fondement de cette construction n'existe pas. C'est imaginatif. Alors tout dégringole. C'est extraordinaire le duel d'Aristote avec Platon. C'est un duel étonnant. Point de vue intellectuel, parce que c'est quand même deux génies, deux grands génies. Et de voir la petite fronde d'Aristote, David en face de Goliath. Parce que la République, c'est Goliath. C'est quelque chose de formidable. La petite fronde. Les formes idéales, c'est l'imaginaire. Ça n'existe pas. L'homme en soi n'existe pas. C'est un rêve. Ce qui existe, c'est Pierre, Jacques et Jean, des individus. Le primat de l'expérience pour Aristote. On comprend qu'Aristote est tenu énormément à ça. Vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, mettre les transcendentaux comme le premier problème métaphysique, transposer. Formes en soi. C'est des rationes, toutes pures. Et on les applique au réel. La scolastique, qui est une réminiscence de Platon. Pas du tout Thomas d'Aquin. Pas du tout. C'est pas du tout Aristote. Il faut reprendre tout par l'expérience, le jugement d'existence. C'est ça qui est intéressant. Et ce qui est intéressant dans le duel Aristote-Platon, c'est parce que là, on est en présence d'un duel permanent. Nous sommes tous platoniciens et aristotéliciens. Tous. Si on veut bien le regarder, on a toujours en nous un petit Platon qui rêve et qui désire dire à Aristote, c'est si beau. On désire, vous voyez, l'imagination, l'imaginaire, construit son monde. Un monde idéal. Un monde merveilleux. Grâce à la dialectique. Et puis en nous, il y a un petit aristotélicien. Il dit, mais mes mains, ça sert à quelque chose quand même. Mon regard, ça sert à quelque chose. Mes expériences, ça sert à quelque chose. Il y a un progrès dans ma connaissance à partir de l'expérience. Je peux pas dire que je possède tout en moi-même, mais non. J'ai besoin d'être instruit. J'ai besoin de recevoir la connaissance de quelqu'un qui a fait le même trajet et qui peut me conduire par le même trajet. L'autodidacte ne va pas très loin. Or, Platon, c'est un autodidacte génial. Lui, comme autodidacte, il a été loin. Mais ceux qui suivent ne sont pas des autodidactes puisqu'ils sont en référence avec Platon. Plotin considère que Platon, c'est une révélation. Le divin Platon. Et le néoplatonisme se réfère à Platon. Comme une révélation. Tellement c'est génial. Et c'est vrai, il faut être aristotélicien pour critiquer Platon. Et comprendre que c'est l'erreur, c'est que les Et alors Aristote reprend tout. Tout. Toute la grande synthèse de Platon est reprise par Aristote. Mais différemment, par le point de vue de l'expérience, par le point de vue de l'induction, par la recherche des principes, non pas de l'homme en soi, mais des principes et des causes. Les principes et les causes, c'est mieux que l'homme en soi, puisque c'est quelque chose de réel, mais qui n'existe que grâce à la découverte que j'ai faite. N'existe pas des principes tout nus. Le père Garrigou Lagrange, je me souviens, dans une retraite qu'il nous avait prêché, nous avait dit de temps en temps, faites le tour du parc en prenant avec vous un principe. C'est une compagnie extrêmement agréable, principe. Alors, vous voyez, on refait du principe une forme en soi. Comme si le principe existait. Non, le principe n'existe que dans mon intelligence, comme principe. Mais quand je dis il n'existe que dans notre intelligence, attention, comme principe, il est saisi par l'intelligence, mais il a un fondement dans la réalité. Quand je découvre la substance comme cause, selon la forme de ce qui est, c'est l'intelligence qui découvre ça. Mais c'est dans la réalité. Alors c'est ça la très grosse difficulté. Mais c'est de toujours voir la différence entre ce qui est vécu dans l'intelligence et la réalité comme fondement. Alors, dans les lois, le nom l'indique, Platon va essayer de comprendre que toute la structure d'une politique, c'est les lois. Et la différence entre justice et loi. Dans la République, c'est la justice qui constitue l'État. Dans les lois, c'est les lois. En réalité, il ne faut pas opposer. Il faut voir que la loi est là pour me permettre de poser des actes de justice, des actes justes. Parce que la justice n'existe que grâce aux actes justes. Et la justice n'a pas d'autre finalité que de me faire poser des actes justes. Mais étant donné la faiblesse de mon intelligence pratique, j'ai besoin des lois. Alors on peut dire, vous voyez, que la République me met en présence de la justice et les lois me mettent en présence de le fruit du législateur, les lois. Et la famille apparaît dans cette perspective comme étant diluée. Il n'y a pas de philosophie de la famille chez Platon. On passe de la contemplation à la communauté politique. Et la communauté politique repose sur des individus. Donc il n'y a pas de famille. Platon va très loin là-dessus, la communauté des femmes. Il va très très loin. Quels sont ceux qui sont les gardiens de l'État, l'armée? Alors il faut que l'armée puisse avoir, en quelque sorte, la clé de la procréation. Ce sont des hommes forts. Mais il y a un eugénisme chez Platon qui est extraordinaire. Il faut à tout prix que la race purifie et que tous ceux qui sont un peu à côté, on les laisse tomber. Pour lui, c'est les commerçants. Oui. Les commerçants ne font pas partie. Ils ne sont pas citoyens. Les commerçants, ce sont des gens très gênants parce qu'ils augmentent le prix des choses. Ce qui est intéressant, c'est l'artisan. Parce que l'artisan fait quelque chose. Il y a une fécondité dans son travail. Tandis que chez le commerçant, il n'y a pas. Donc, ils ne sont pas vrais citoyens. Et les soldats sont des hommes forts qui gardent l'État. Et puis les magistrats. Alors vous aurez les magistrats qui font les lois. Vous aurez les soldats qui sont les gardiens. Et vous aurez les artisans qui produisent. Les artisans, les paysans, ceux qui sont des artisans, dans le sens le plus vaste du mot. Et les commerçants, faisons attention, mettons-les toujours en dehors de la cité. Ils ne sont pas des citoyens. Vous voyez cette vision très très curieuse. Et le roi, le législateur suprême, au-delà des musées, le roi qui est un philosophe qui contemple. Et la famille n'existe pas. La pédagogie, l'éducation, la païdéia, c'est directement le roi. Et les magistrats qui en sont responsables. Il faut une éducation d'État qui provient de l'État pour unifier tout et en même temps respecter la diversité des corps. Ils sont des corps d'or, d'argent, d'airain ou de la poterie. Faut laisser tomber ça. C'est très curieux, vous voyez, la question du corps qui est rejeté va jouer un rôle très important puisque ça va diversifier les citoyens. Mais ne sont citoyens que ceux qui produisent. Les commerçants ne sont pas. Alors, Aristote, là-dessus, c'est tout à fait autre chose qu'on verra la fois prochaine.